où tout se mélangeait, le ressentiment, la paranoïa et la certitude d'être un génie incompris. L'assistance le regardait, à défaut de l'écouter, avec un air absolument consterné. Et l'organisatrice me lançait des regards terrifiés. Dieu sait pourtant si nous étions proches autrefois. Il était promis à un grand avenir et avait même dirigé, par intérim pendant quelques mois, l'antenne du prestigieux Deutsches Archäologisches Institut à Damas. Il gagnait beaucoup d'argent, arpentait la Syrie dans un 4x4 blanc impressionnant, passait de chantiers de fouilles internationaux à la prospection de sites hellénistiques inviolés, déjeunait avec le directeur des antiquités nationales syriennes, il fréquentait de nombreux diplomates de haut rang. Nous l'avions accompagné une fois, sur l'Euphrate, dans une visite d'inspection au milieu du désert, derrière l'atroce ville de Raqqa. Et c'était merveille de voir tous ces Européens suer sang et eau au milieu des sables pour diriger des commandos d'ouvriers syriens, véritables artistes de la pelle, et leur indiquer où et comment ils devaient creuser le sable pour en faire renaître les vestiges du passé. Dès l'aube glacée, pour éviter la chaleur de la mi-journée, des indigènes en kéfier grattaient la terre sous les ordres de savants français, allemands, espagnols ou italiens, dont beaucoup n'avaient pas 30 ans, et venaient, gratuitement le plus souvent, profiter d'une expérience de terrain sur un des tels du désert syrien. Chaque nation avait ses sites, tout au long du fleuve, et jusque dans les terres mornes de Jésiré aux confins de l'Irak. Les Allemands Tel Alaf et Tel Bi'a, qui recouvraient une cité mésopotamienne répondant au doux nom de Tutul. Les Français, Doura Europos et Marie. Les Espagnols, Halabiya et Tel Alula, et ainsi de suite. Ils se battaient pour les concessions syriennes comme des compagnies pétrolières pour des champs pétrolifères. Et étaient aussi peu enclins à partager leurs cailloux que des enfants leurs billes. Sauf quand il fallait profiter de l'argent de Bruxelles et donc s'allier. Car tous se mettaient d'accord quand il s'agissait de gratter non plus la terre, mais les coffres de la Commission européenne. Bilger était dans ce milieu comme un poisson dans l'eau. Il nous semblait être le Sargon de ces foules besogneuses. Il commentait les chantiers, les trouvailles, les plans. Il appelait les ouvriers par leurs petits noms. Abou Hassan, Abou Mohamed. Ces terrassiers locaux gagnaient une misère, mais une misère bien supérieure à ce qu'un chantier de construction du cru leur aurait rapporté. Sans compter le divertissement de travailler pour ces francs en saharienne et foulard couleur crème. C'était le gros avantage des campagnes de fouilles orientales. Là où en Europe ils étaient contraints par leur budget à creuser eux-mêmes, les archéologues en Syrie, à l'image de leurs glorieux prédécesseurs, pouvaient déléguer les basses besognes. Comme disait Bilger, citant le bon, la brute et le truand, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent. Les archéologues européens avaient donc acquis un vocabulaire arabe tout à fait particulier et technique. Creuser ici, dégager là, à la pelle, à la pioche, à la petite pioche, à la truelle, le pinceau était l'apanage des Occidentaux. Creuser doucement, dégager vite, et il n'était pas rare d'assister au dialogue suivant. Descendre ici un mètre. Oui, chef. À la pelle de chantier? Grosse pelle non, plutôt pioche. À la grosse pioche? Grosse pioche, non. Petite pioche. Donc, on creuse un mètre à la petite pioche? Nam nam. Chouya chouya, hein, n'allez pas me défoncer toute la muraille pour terminer plus vite, ok? D'accord, chef. Dans ces circonstances, il y avait bien évidemment des malentendus qui donnaient lieu à des pertes irréparables pour la science. Nombre de murs et de stylobates sont tombés victimes de l'alliance perverse de la linguistique et du capitalisme. Mais dans l'ensemble, les archéologues étaient contents de leur personnel qu'ils formaient, pour ainsi dire, saison après saison.